bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Gadeau-Renaudi.
Bonjour à tous.
Daniel Lemora.
Bonjour.
Albert Albou.
Bonjour.
Bonjour Albert. Je te réveille.
Pardon, bonjour, bonjour.
Voilà, je sais bonjour.
Allez, salut.
Bravo. Tout à l'heure, Tanguy Passureau et notre invité est Jean-François
Stéphane. I love you.
Bienvenue Jean-François, vous êtes là car il y a trois films, les trois films que vous avez réalisés, Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka, qui sont en version restaurée. D'ailleurs ça doit faire quelque chose de bizarre de se dire, il faut que je restaure mes propres films. Alors j'ai cru voir une triste actualité en fait. C'est la fin de Mishka où vous dédiez le film à Johnny, où on sent que le générique a été modifié évidemment pour votre ami avant d'être le comédien qui était présent dans le film. Mais pour les autres, quel a été le travail de restauration, quoi? Ça veut dire quoi restaurer un film?
Est-ce que c'était tellement délabré?
C'était foutu carrément. Parce que l'argentique disparaît. Donc d'un seul coup, par exemple, pour Passe-Montagne, le film fait 2 heures. Il faut refotographier chaque photogramme, 24 images secondes. 2 heures, c'est un boulot énorme.
Ah, mais c'est un truc de dingue. D'accord,
c'est un truc de dingue.
Donc c'est de la restauration vraiment au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que la pellicule étant fatiguée, il n'y avait pas de sauvegarde numérique, comme c'est très la mode en ce moment. D'accord.
Voilà. Et ça permet, alors avantage, ça
de changer les couleurs,
d'améliorer le film complètement.
Vous changez les couleurs, vous changez la lumière.
Des choses que Passe-Montagne, c'était en Agfa, pellicule très très bleutée, violette, il y a pas beaucoup de lumière. Dans des plans qui sont complètement nazes, qu'on n'a pas pu faire autrement parce qu'on tourne la nuit, tu vois.
Ouais, mais ça aide à l'ambiance.
Oui, mais on la force justement.
D'accord.
Alors il y a des bécanes maintenant extraordinaires. On a passé 3-4 jours par film avec ça. C'est-à-dire le gars il dit avant, après. Alors il dit oh tiens là, t'as un petit éclat dans l'œil. Je vais le forcer un peu. Je vais noircir les sapins 1 km là sur la droite du sport. Regarde.
Précis, hein.
Oh ben vas-y, non force. Il dit non, ça va te. Oh, je dis si, au contraire, vas-y à fond. Et on fait ça.
C'est comme si vous les réalisiez une deuxième fois.
Ah, complètement. Ça permet de continuer le film. Et il y a des exemples comme ça, par exemple.
Est-ce que vous avez modifié le montage, pardon?
Non, on peut pas. C'est interdit. Ils n'ont pas le droit.
Comment ça, interdit?
Ah non, ils n'ont pas le droit. Il n'y a pas le temps.
Vous êtes réalisateur, faites ce que vous voulez.
Non.
S'il y a une scène, vous voulez couper. Non,
parce que comme c'est le Centre National du Cinéma qui a décidé que ces films devaient faire partie du patrimoine, moi j'étais très fier, ils ont mis beaucoup de thunes là-dessus pour qu'on puisse financer, parce que nous, on peut pas. Et d'un seul coup, y a un cahier des charges qui fait qu'ils ont le droit de toucher à rien. Sauf à un moment, en Passe-Montagne, il y a un plan tellement glauque qui m'a toujours énervé. Je dis celui-là, on écoute, il y a du son. Il n'y a pas de son, justement. Il n'y a pas de son.
C'est
un plan nul, un plan de descente sur la ville de Lons-le-Saunier par un jour de grisaille où il n'y avait rien.
Dommage, ça a l'air bien. C'est dommage.
Alors ça, ils ont accepté. Ils ont accepté. C'est le seul qu'ils ont accepté. Et autrement, et en plus, ça permet de recaresser le son aussi, de le purifier.
Ouais, c'est joli. Un son qui est à la fois en prise directe et à la fois en post-synchro. Ça, c'est l'une des. Il y a beaucoup de points communs dans ces trois films. Et la signature du son, c'est beaucoup de prise directe et le peu de comment on appelle ça, de
doublage.
De doublage, merci. Autre signature en termes d'image, les plans sur plan. Vous aimez ça, les plans sur plan? Quand vous montez sur une même image et que les deux images pourraient correspondre, on pourrait dire oula, l'image a sauté. Non, c'est un effet de réalisation. Vous l'avez fait dans les trois films.
Oui, ce qu'on a beaucoup fait avec Yann Dedet, c'est d'un seul coup saboter les plans séquences. Parce qu'un plan séquence ne tourne que comme ça. Parce que j'aime qu'un plan séquence, c'est-à-dire, voilà, ça dure 1 minute 10, par exemple. C'est très compliqué à installer. Moi, j'aime bien ça parce que pendant que l'équipe installe, il faut quelques heures. Pendant ce temps-là, ça permet de parler aux comédiens, de changer des trucs sur la déco, d'améliorer ceci, cela, d'avoir des idées. Et d'un seul coup, tout le monde est super chaud parce qu'on sait que moi, j'aime les premières prises, par exemple.
Pas de droit à l'erreur.
Bah, c'est-à-dire que si on dit « Oh, bah, c'était qu'une répète, on va le faire » et que c'était vachement bien, c'est dommage. Donc tout le monde est chaud. Et ça permet d'avoir une équipe qui n'est pas en train de regarder les pauvres acteurs qui se démènent. Genre la plupart des téléfilms où on fait un plan large, des chants, des contre-chants, avec amorce, sans amorce, au-dessus de l'épaule, enfin bref, des cacaboudins. Là, tout le monde est chaud et en jouant, on s'aperçoit que tout le monde joue avec, c'est-à-dire on voit le personnage, je me dis merde, il va toucher la porte, non, ça va, ça passe à côté, hop, hop. Bon, et puis tout de suite, alors là, il faut s'appuyer, souvent moi je m'appuyais avec les chefs machinaux, comme ça, du regard simplement, comme je joue dedans. C'est du droit divin, complètement, on ne peut pas dire oui, on va regarder le combo, on va regarder comme... Non, alors chantait si tout le monde revenait au départ tout de suite, pas trop bon. S'il y avait un petit relâchement...
Petit flottement.
Ouais. Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit truc. Alors, une prise, une autre, un peu plus loin, la septième prise. Ok, c'est bon, on change de plan. Et alors après, on se retrouve... quand on se retrouve comme ça, on se retrouve avec des beaux petits plans séquences, posés les uns côté des autres, et l'équipe, chaque fois, dit, eh bien, il n'y a qu'à couper les claps, puis t'as le film. Alors on fait ça, puis on s'aperçoit que le film fait 3h15. Et c'est chiant comme tout. Pourquoi ? Parce qu'un plan séquence qui fait 1 minute 10, ça fait 1 minute 10 en durée réelle. Si on fait par exemple un plan séquence, là maintenant, on est en train de discuter tous les deux. Après, on va fumer un petit clope à la cafétéria, et après, et on prend l'ascenseur. Ça, c'est le même plan. C'est 1 minute 10. Si on commence par mettre le plan d'ascenseur, sans savoir si on va entrer ou sortir l'ascenseur, un truc au milieu, et d'un seul coup, maintenant, quand on est en train de parler, on se dit, mais ces deux-là, ça fait 2 heures qu'ils discutent. Ça ne fait pas 1 minute 10. Donc ça permet de faire passer du temps très très fort. Et comme ça, dans des plans de, où il y a beaucoup de nuit blanche, par exemple, on se dit, oh là là, mais... Ah ben la nuit blanche, elle fait 6 minutes 15. Alors que si on avait mis tous les plans, ça faisait 1h20 et on s'emmerde.
Bon, avec l'idée de raccourcir les questions de Nagui, je trouve ça enchanteur.
Ce qu'il faut dire, c'est que Jean-François Stévenin, il parle si bien du cinéma parce qu'il a fait tous les métiers du cinéma avant d'être acteur et d'être réalisateur. Donc, il connaît bien la musique.
Oui, c'est vrai que je connais pas tellement la technique, mais je connais le poids du plateau. Comme j'étais un super assistant, je peux le dire, ça, vraiment, bon.
C'est une
je connais
publique.
Le poids du plateau. Je me dis, tiens, on va faire ça, ça veut dire qu'il y en a pour 1 heure à préparer. Ça m'aide comme acteur quand je suis sur d'autres
films. J'adore l'expression le poids du plateau.
Ouais, le. Ouais. Dit, on dit, non, là, t'as pas le temps parce qu'on va tourner ça avant
déjeuner. Ouais, et puis il y a une lourdeur en fonction de la lumière, du décor, de l'installation.
Je me dis, oh là là, l'autre, il dit ça, mais. Le soleil vient de se cacher, ils vont sortir 2 HMI, ils vont mettre ça dehors.
On va expliquer, les HMI sont des projecteurs. Ouais. La gélatine, c'est pour adoucir ou pour modifier la couleur. Le problème, c'est que quand, en plus, il y a du soleil, c'est là où il faut le plus de lumière pour rattraper la lumière du soleil.
Bah, je vois que Nagui connaît tout ça.
Non, mais il faut expliquer. Moi, ça, Catherine.
Quand on est acteur...
Catherine, c'est le resto, il faut expliquer aussi.
Quand on est acteur... D'un seul coup, il faut le jus quand même, juste au moment où c'est prêt.
Ouais.
C'est pas l'équipe qui est en extase, parce que le pauvre chéri, il va jouer. Tout le monde a ses problèmes. D'un seul coup, je me dis, bon, ben là, le jus, il va falloir avoir ça après le déjeuner, vers 14h30.
Sauf...
Alors qu'on me dit, non, on tourne ça avant midi, c'est obligé, parce qu'après, c'est pas vrai.
Sauf quand c'est Johnny Hallyday. Alors là, je voudrais... Parce que c'est lui qui a décidé à quel moment il fallait tourner une scène précise quand il juste avant qu'il que l'on voit la scène de l'hélicoptère, parce qu'il ne voulait pas jouer au mec qui, mais il voulait être le mec qui le fait vraiment. Je vous laisse expliquer. C'est pour ça que je fais exprès de ne pas donner la phrase en intégralité, parce que vous dites Johnny, c'est un vrai au moment de tourner la scène. Il ne voulait pas faire semblant, il voulait faire véritablement. Raconter. Donc c'est lui c'est lui qui a décidé du moteur. Là. Il dit faut qu'on y aille maintenant.
Oui, exact. Exactement.
Racontez.
L'autre, il est là. Il est à l'Olympia quand même, tous les soirs. On est obligé. C'est ce jour-là, 23 août 2000, un des plus beaux jours de ma vie. On est près d'Auxerre. Et c'est ce jour-là qu'il faut qu'il vienne. Alors, il fait tout le cirque habituel. Comment je m'habille ? J'ai pas de scénario. Qu'est-ce que tu me fous ? Dis donc, alors, comment je m'habille ? Parce que, Bref, on trouve. L'hélico arrive. Pas de plan de vol. Pas d'assurance, pas d'autorisation, personne prévu. Donc, risque maximum, l'autre, il débarque comme ça. Et là, dans la scène...
Lui, il était obligé de venir en hélico parce qu'il n'avait pas le temps, entre l'Olympia et le tournage...
Ah, bien sûr, lui, il sort de l'Olympia. Il se couche tard, Midi au cerf, 4 heures du soir, à nouveau hélico, le soir, wamba bloba.
Et il ne savait pas ce qu'il allait jouer.
Si, je lui avais donné un truc.
D'accord.
Alors, il savait.
Qu'est-ce qu'il est beau, il y a une lumière assez incroyable sur cette, ce plan-là, il est fou.
Et puis le rapport avec le môme, formidable. Ouais,
c'est très beau.
Et justement, à l'étalonnage, quand on a restauré le film, celui-là aussi, on l'a complètement westernisé, si on peut dire. Mais non, ça va être trop rouge. J'ai dit, mais Johnny, il est trop rouge, il est à fond. Il faut que ça soit bien comme ça. Et dans la scène, il doit être écrit dans le scénario, il est en train de pisser dans un champ. Comme ça. Et après, il se retourne, hôtel A, etc. Et là, il répète avec le comédien Jean-Paul Bonheur qui tournait avec lui, qui croyait d'ailleurs qu'il ne revenait pas, et qui penserait que jamais il viendrait. Puis là, c'est quoi, il faudra qu'on y aille parce que j'ai vraiment envie de pisser, moi.
Et je trouve ça formidable.
Alors ça, formidable. Alors que n'importe quel film, il y a une poire. On fait une poire, puis on fait semblant de voilà. Et l'autre, je dis, bon, bah, d'accord, alors on va tourner. Mais c'est pas vrai.
Et c'est lui qui décide. Là, il n'y a qu'une prise possible.
Ah, il n'y a qu'une prise possible. Je me dis, après, on la refait. On fait rien du tout. On y va direct.
Ouais, c'est beau, c'est une apparition, cette scène, dans le film. Ah, il y a quelque chose d'un peu magique, d'un peu cosmique, quoi. On le voit.
C'est un ange.
Ouais,
C'est un ange. C'est un ange.
Puis je voulais que par rapport au personnage avec lequel il joue, qui est un personnage un peu limite, qui vit avec sa vieille maman, qui raconte qu'il a sauvé Johnny quand il était pompier volontaire 20 ans plus tôt, que l'autre était enroulé en Ferrari, il explique ça à Jean-Paul Roussillon. On se dit,
il est fou.
Voilà, c'est dans sa tête. Ouais. Donc quand on le voit, l'autre qui arrive pour de vrai, parce que l'autre, il dit, il a jamais oublié que c'était moi qui. Quand il s'est réveillé, il m'a vu. Il m'a dit, toi, mon pote, c'est pour la vie. Alors, chaque fois qu'il va en tournée, il s'arrête avec l'hélicoptère. Et puis, il m'apporte souvent à manger. C'est souvent du poisson. J'aime pas le poisson, mais je veux pas lui dire. Une minute après, l'archange, hop, l'autre arrive. C'est quand même. Donc, ça fait que dans ce film où il y a que des gens un peu limites,
Will Smith à qui on peut rendre hommage, qui a disparu récemment. Oui. Roger.
Roger, formidable. Et il y a d'un seul coup, tout est vrai. Puisque Johnny, là, tout est vrai pour tout le monde. Ah oui, c'est un gros cadeau.
Et vous aussi, d'ailleurs, vous alliez beaucoup le voir en concert. Et les équipes de Johnny pensaient que vous étiez toujours dans le quartier en train de tourner. Or, vous faisiez des centaines de kilomètres pour aller voir Johnny en concert.
Oui. Puis j'arrivais toujours à me faufiler sans qu'il le sache trop. J'ai un fantasme depuis le début. Je voulais un peu faire partie de la bande, mais sans qu'il le sache. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas dire. Alors j'arrivais toujours, finalement.
Mais là, vous avez un aigle autour du cou, donc vous faites partie de la bande.
Il y a toujours un clin d'œil dans vos films. Hein. Il y a soit une affiche, soit il est présent partout.
Ouais. Et puis l'autre, on me disait, disons, il y a le patron qui t'a vu, t'es obligé d'y aller. Hein. Ah non. Alors moi, il fallait me tirer, parce que lui, il prétend que j'étais son pote et tout, mais moi, pour moi, c'est Johnny Hallyday. Quand on est fan, il n'y a pas d'histoire de... Non, c'est pas mon pote, c'est Johnny. Bon, fan privilégié. Alors l'autre, quand il est après ça, il me dit « T'as fait 500 bars à moi, tu tournes quoi dans le coin ?» Ah ben, j'ai dit « Non, je tourne. » Alors il a compris ça, après. Puis il l'a cru, puis c'était vrai. Alors là, il trouvait ça, j'étais héroïque, alors que lui, par rapport à ce qu'il fait, tu parles, il fait la dernière fois, il y a seulement un an et demi quand même, Miami, Los Angeles, avec les Harley Davidson, 3 semaines sur un moto. Il l'a fait il y a un an et demi encore, donc c'est un truc. Donc, s'extasier parce que je fais 150 km pour aller le voir, c'est vraiment fait partie de ces bizarretés chaleureuses.
Oui, de la même manière que j'imagine qu'il n'appréciait pas quand, justement, vous lui parliez de sa carrière en lui disant « tu es l'idole, t'es le taulier ». Oui, parce qu'il est timide, il était timide, n'aimait pas ça. Ouais.
Alors, une fois, on était sur le film de Laetitia Masson, Love Me, on était dans les docks, au Havre, de nuit, donc vraiment à 4h du matin, on est dans une petite loge qu'ils avaient bricolée. Il y a une photo de lui à 18 ans, qui était là par hasard. Alors je prends mon courage à deux mains, parce qu'on avait un meilleur rapport quand on tournait ensemble, des rapports d'acteurs. Mmh. Parce que lui adorait ça, et moi aussi, donc on avait là en face,
vous étiez l'idole. Vous étiez au même niveau.
On était au même niveau là. Alors, en ce coup, je dis, est-ce que tu te rends compte que n'importe où en France, on te parachute en hélicoptère, dans un hameau, dans un truc, il y a toujours un as qui a toutes tes photos avec le portrait de Gaulle, machin, ou toi. L'autre, il me dit, lendemain, on va lever de la fonte. Ça n'a pas intéressé.
Faire de la gym, quoi.
Ouais, faire de la gym. On n'a pas répondu là-dessus. Ça
n'intéresse pas.
Non, c'est de la timidité, c'est de la pudeur qui était.
Avec des trucs de fou. Il y a des gars qui ont fait des musées pour lui. Des musées où on récupère le clope qu'il a acheté à Saint-Tropez il y a 150 ans, qui est sous verre avec un truc, la Kleenex, le truc.
Alors, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé chez Johnny. Après, on va revenir quand même à vos films. C'était son track. Est-ce que ça, vous en êtes rendu compte sur les tournages au cinéma? Ah, il oui. avait, avant de monter sur scène, avant de démarrer, avant de chanter, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, le plus gros trac que j'ai eu de ma vie, ça a été d'être à côté du taulier et de me dire, ouais, j'ai Johnny, plus rien ne peut arriver. C'est-à-dire, on démarre une émission en direct et en musique avec Johnny, c'est le summum pour un animateur. Ouais. Mais quand sur le générique, Johnny se tourne vers vous et dit... J'ai le trac. Il vous le refile c'est d'un coup. Vrai. D'un coup, tout s'écroule.
Il vide en fait. Il le file
c'est
à toi.
C'est ça. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'était pareil au cinéma?
Alors, incroyable au cinéma. Quand le premier jour de ce tournage avec Laetitia Masson, il arrive, je vois, il a une lèvre, un herpès, enfin, qui. Au début du repas, la veille du tournage.
Un bouton de fièvre
qui commence à lui ravager. Non, mais. On pouvait pas tourner le lendemain, c'était sinistre. Tout de suite, il devenait violacé comme un crocodile en 2 heures. L'autre, il me dit, moi, au Stade de France, j'ai un petit herpès, ça passe. Et là, t'as vu? Mais je crois que j'ai la teinture, je sais pas ce qu'il y a. Le lendemain, il n'avait rien à faire, il avait juste à dire, moi, je suis la roi de la tartine.
Moi, je suis le roi de la tartine.
Oui. Ah non, il y a ça. Parce que tu peux te retrouver sur un film, tous arrivés, où le lendemain, manque de peau, c'est le premier jour, bah, t'as la scène la plus compliquée du film, où t'es à poil dans un lit, enfin, tout ce qu'il faut pas, bim, paf. Là, moi, je suis le roi de la tartine. Et l'autre, il était malade. Avec ça. Le lendemain soir, plus d'herpès, fini.
La tartine était passée. Donc.
Psychosomatique. Ouais. Passe Montagne, c'était en 78, Double Messieurs en 86, Mishka en 2002. Le 18 avril, ça sera au cinéma en version donc restaurée, l'intégrale Jean-François Stévenin. J'ai presque envie de dire intégrale famille Stévenin, parce qu'il n'y a pas que Jean-François qui est à la fois scénariste, producteur même et réalisateur de ses films. La famille est là et c'en est extrêmement touchant et émouvant, d'ailleurs, parce qu'elle est je la trouve bouleversante, votre famille. Là, on est dans le monde du spectacle, j'ai dire du cirque.
C'est Saltimbanque.
Ouais, c'est ça. C'est
et puis,
ça.
Et puis les comédiens aussi récurrents, la fidélité que vous avez vis-à-vis d'eux, qui font aussi partie de la famille finalement. Parce
Yves
que,
Afonso.
J'adore.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il est beau.
Il est formidable. Mais il n'a jamais compris qu'il était formidable.
C'est vrai.
Ouais, c'est dommage.
Vous l'avez dit pourtant.
Ben oui, mais à chaque fois, il me fait un procès. Ah. Fait Double Messieurs, il me fait un procès. Ah bon?
Un vrai procès.
Procès, parce qu'il y avait 12 pages dans les cahiers du cinéma, avec des interviews de partout, et moi j'avais dit qu'il prenait pas ses places. Ce qui est vrai. Et le gars qui s'appelle Jean-Paul Bonnaire.
Ne pas prendre sa place, c'est ne pas être à l'endroit où il faut pour le cadre et pour la lumière. Voilà. C'est pas une question de rôle, c'est juste une question technique.
Oui. Et comme c'est des plans séquences très chorégraphiés, c'est hyper important parce qu'autrement, le plan ne marche pas du tout. Alors à ce moment-là, le gars qui joue avec Roussillon et qui attendait Johnny dans Mishka, lui aussi, il ne sait pas prendre de place. Mais ça ne fait rien, ils amènent une authenticité tellement forte. Je me dis, bon, bah, lui, il ne sait pas prendre ses places, mais il donne tellement de trucs d'improvisation absolument formidables qu'on prend le défaut. À lui, il m'a fait un procès qu'il a perdu. Parce que
ça ne veut rien dire, mais c'est ça.
Quelques années plus tard, on fait Mishka. Reprocès.
Ah, vous y retournez, pourtant.
Oui, vous le reprenez.
Je le trouve tellement formidable.
Chien et chat.
C'est bizarre, hein, c'est dommage. Alors du coup, il n'a pas profité des films du tout. Quand Mishka est sorti, il n'a pas fait de promotion, il n'a pas vu les films, il n'a pas vu comment tout le monde le trouvait formidable.
Non, c'est Salomé qui est lumineuse dans le film. C'est,
Ah, ça.
Elle est incroyable. Elle est sur beaucoup de plans. C'est une gamine d'une quinzaine.
Delphine.
15 ans.
Ouais, Jeanne ou Jane, ça dépend. Delphine pour d'autres. Elle a à peine 15 ans sur le tournage. Et c'est une espèce de road movie comme ça où elle s'enfuit avec son frère pour essayer de retrouver son père. Mais elle est lumineuse. Elle est juste. C'est une très brillante comédienne en tout cas. clairement.
Ouais, c'est magnifique. Mmh.
Il peut être fier, surtout. Machal, ouais, avez-vous compris pourquoi Jean-François Sébastien est notre invité.
Vous savez, cher Nagui, comme la restauration des films, les prothèses auditives ont fait des progrès considérables depuis quelques années, tout comme les baignoires à portée. C'est sans difficulté que je vous écoute avec attention depuis tout à l'heure. Et pourtant, je n'ai pas cru mes oreilles en vous entendant complimenter, comme vous venez de le faire à l'instant, Jean-François Stévenin, pour sa trilogie. Et que je te caresse passe-montagne par-ci, que je t'encense double messieurs par-là, et que je te mouille la compresse à Mishka par-dessus tout ça. Si ma terrible mutilation du fondement, que vous connaissez, ne m'interdisait pas de me secouer la panse, j'avoue, mon cher Nagui, que je me laisserais aller une franche rigolade en repensant à votre réaction 5 minutes avant l'émission, quand JNB, notre rédac-chef à la laine de Coulommiers, vous a dit... il en vient et il en mange. Vous a dit que Jean-François Stévenin était votre invité et qu'il venait pour évoquer la sauvegarde de ces 3 films. Ah, fallait voir comme vous avez explosé. 3 films, pourquoi pas un livre avec des mots pendant que tu y es. Je vais même pas avoir le temps de regarder les bandes-annonces qui, d'habitude, me suffisent pour tenir 1h30 d'interview.
C'est vrai.
Mais, oh mon maître, répondit JNB d'une voix rendue caverneuse par le casque intégral dont il s'était coiffé en prévision des coups que vous alliez lui asséner. Vous n'aurez qu'à poser mes questions standards en cas d'invité à la fois réalisateur, comédien et père des comédiens de ses propres films. Alors, d'abord, il y a l'inusable. Être derrière et devant la caméra et inversement, comment ça se passe? Ensuite, quand vous tournez avec vos enfants, c'est le papa ou le réalisateur qui dirige? L'exigence est-elle la même? Et enfin, vous accepteriez d'être dirigé par un de vos enfants? Ce serait une remise en question. Effectivement, une brochette de questions aussi pertinentes que rassurantes et courtes. Quant à moi, je voulais dire à Jean-François que sa trilogie me bouleverse. Car elle résonne comme le résumé de mes baroudes de jadis. Je peux pas tout évoquer, mais moi aussi, comme dans Mishka, j'ai été abandonné en fauteuil roulant sur une aire d'autoroute et accueilli par un gars qui lui aussi s'appelait Gégène. Mais lui, c'était un surnom, un souvenir de ses exploits en Algérie. Son vrai prénom, c'est Jean-Marie. Un chic type. Et nous aussi, nous sommes aimés. Ne nous jugez pas. Bonne fin d'émission.
Merci, Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Les 3 films ont des points communs. Déjà, les 2 premiers films, vous ouvrez sur un plan d'une carte, soit une carte routière, soit une carte géographique, pour situer là où on est, avec vraiment un plan très serré, où on voit la route se balader. Le troisième, c'est plus vraiment une carte, ce sont des écrits, mais avant, il y a les lignes de la main, comme si, d'ailleurs, ces lignes étaient la route de la vie aussi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ces 3 films, vos 3 films, avec cette même vision de la vie ?
Vous me faites découvrir ça, moi. J'ai pas fait. Oui,
c'est vrai.
J'avais pas fait exprès de faire ça comme ça.
Mais c'est une quête à chaque fois.
C'est un road movie,
c'est vrai,
incroyable.
Que c'est à chaque fois, c'est comme c'est
des lignes de la main, c'est comme
parenthèses.
C'est comme les cartes. Ouais.
C'est des chemins de traverse. Donc, à un moment, on a l'habitude de faire tel trajet, puis à un moment, il y a une porte qui s'ouvre. Oui. Hop, c'est l'inconnu. Pendant quelques jours, et hop, après on prend sa route normale. Donc c'est un peu métaphysique et tout ça. Et moi j'adore ça, et c'est vrai que le coup des lignes de la main, c'est vachement bien, avec l'écriture en plus qui vient dessus.
C'est ça.
Et c'est ce qui est beau dans vos films, c'est ce mélange de réalité, de sorte de fiction, une forme de poésie un peu folle, parfois un peu loufoque, qui nous ramène quand même au réel.
Par moments totalement barré.
C'est ça qui est beau.
On peut se demander, comme il l'a posé tout à l'heure, on peut se demander s'il y a eu un montage par moment. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas que des plans sur Longouille avec la grisaille de Longouille.
Lance le saunier, pardon.
Non, il y a des parenthèses dans la réalité, à se demander si c'est la réalité qui encadre ces petites parenthèses un peu poétiques et surréalistes, ou si c'est le contraire. Finalement, il y a ce mélange qui fait qu'on se perd et qu'on aime se perdre avec vous, parce qu'à chaque fois, c'est des quêtes, comme le disait Albert, c'est rechercher l'ami qui manque, c'est...
La combe magique.
Oui, c'est partir à la recherche des enfants, de la famille. Il y a toujours un chemin qui fait qu'on part avec vous et on se demande où on va arriver. Et finalement, on se dit, peu importe où.
Oh, bah vous en parlez tellement bien là que j'ai... Là, je ne sais pas comment je peux intervenir. Si, vous en parlez vachement bien. Ouais. Parce que c'est vrai que... Ah oui, j'aime beaucoup aussi les choses non dites. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous les dialogues racontent une chose, la caméra en raconte une autre. Donc c'est pour ça que il y a des silences, il y a des interventions extérieures et tout ça. Donc ce qui est non dit, ça me plaît bien parce que c'est un truc de pudeur, quoi.
Mais tout ça, il faut
aucun personnage qui va dire je t'aime, t'es sympa, oh qu'est-ce qu'on va faire une bonne brinque, oh, pas du tout.
Non, c'est des choses assez
communes. Vous devez l'expliquer aux comédiens. Est-ce que par exemple Carole Bouquet, que on n'a pas encore citée, qui est présente dans Double Messieurs, qui est sublime, sublime. Je sais pas si le tournage était autour de la période de Louise Buñuel, James Bond dans les années 80, ça devait être
85,
voilà, 80. autour de ça. Il faut lui expliquer ce à quoi vous pensez pour le film, parce que c'était pas un rôle, on peut pas dire que soit un film traditionnel avec une intrigue, un début, un milieu, une fin, même s'il y a quand même la quête de ce troisième larron des colonies de vacances, avec une photo et une croix gammée qui fait froid dans le dos. Mais là, vous lui donniez les intentions, vous lui expliquez le personnage.
Il faut beaucoup lui expliquer à Carole Bouquet, elle comprend pas vite, il paraît.
C'est bizarre parce qu'on a très peu parlé. Et Carole, on s'entendait pas du tout.
Le film est bien barré quand même.
Et je me suis aperçu, ça c'est l'expérience, parce que j'ai pas tourné assez de films pour avoir cette expérience-là, j'avais pas tourné assez, c'est que chaque acteur fonctionne différemment. Par exemple, Yves Afonso, lui, ne voit que lui.
Il fait un procès.
Comme Patrick Bouchité, ce que j'appelle, c'est les gars qui jouent en rétroviseur. C'est-à-dire, dès qu'il a fini la scène, il dit « Alors, j'étais bien, j'ai dit, hein ? Non, tu vois, tu comprends, hein ?» Il dit « Attends, il y a 5 autres acteurs, tu vois, il faut que je m'occupe un peu. » Carole, elle marche à coups de pied au cul. Qui l'eût cru ? Au début, carrément, elle partait, elle claquait la porte, je dis « Bon, on tourne d'autres trucs sans elle, tant pis. » Alors, elle était à la chambre d'hôtel, à Grenoble, on allait la voir comme on va voir une tante qui est malade. On tournait sans elle. Et puis un jour, on tourne, il faisait quand même moins 10, on tourne dans le garage d'Hôtel Mercure avec une soufflerie, un plan comme en studio. Donc,
puis elle était habillée très légèrement en plus.
Oui. Alaya.
La robe est sublime.
Oh oui, ah ouais, sublime, Alaya, sublime. Il faisait moins 20 après sur le truc. Elle a tout supporté, c'est une nageuse de combat savoyarde, de volonté totale.
On sait à quel point en Savoie il nage beaucoup.
Et c'est un mec du Jura qui dit ça, donc c'est un compliment.
Et alors, la Carole était là, donc il y avait un ventilateur pour Afonso qui était à tout le monde gelé. Elle, non, elle voulait pas de machin. Alors j'ai dit, stop, tu m'emmerdes.
Elle voulait pas de machin, c'est quoi le machin ?
Un ventilateur.
Ah, d'accord.
Donc, vitre ouverte. Elle, pas de ventilateur. Pour Afonso, ils sont assis devant dans une voiture.
Non, il faut juste préciser que le ventilateur, c'est pour chauffer.
Non, pour faire bouger
les cheveux. Les cheveux, le vent.
Dans la voiture. C'est pas pour la réchauffer
de la température
extérieure. Non,
ça aurait été bien. Ça aurait été une bonne idée. Alors, elle part en claquant à la porte. Elle monte dans sa chambre. Oh, je me dis, elle est barrée, quoi. Ça fait 3 semaines qu'on tourne à moitié avec elle. Là, il y a un clash. J'arrive dans sa chambre. Elle se marre, on sort une bouteille de blanc qu'on boit et on redescend sur le plateau impeccable. Il fallait la secouer un bon coup. C'est drôle. Et puis d'un seul coup, parce qu'autrement, elle parle avec une voix un peu perchée. Je dis, non. Alors après, grande complicité. Et je me suis aperçu après, et surtout pendant la restauration, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, à quel point elle est formidable. Parce que comme les plans vont et viennent pendant la restauration 10 fois de suite, elle a fait des trucs incroyables que je n'ai pas vu du tout à l'époque. Et parce qu'on n'est jamais content du film à l'époque. Moi, j'ai vu j'étais navré.
Vous avez un bijou avec elle,
Et vous êtes quel genre de comédien ? Il y a alors ceux à qui il faut mettre des coups de pied au cul, d'autres...
Ou une bouteille de vin blanc.
Voilà.
Et l'acteur à rétro.
Et vous êtes plutôt comment ? Quel genre d'acteur vous êtes ?
Avec ou sans ventilo ?
À diriger.
Moi, j'aime bien qu'on m'explique pas trop le scénario 10 fois de suite. Et qu'une fois qu'on tourne, en principe, le travail est fait avant. Donc, si je tombe, alors ça m'est arrivé dans les cas extrêmes, on tombe sur un gars au maquillage qui dit « Bon, dis donc, Coco, on se fait une italienne ». Je dis « Attends, l'italienne va te brosser, là. Il est 7h du matin. On va tourner ça toute la journée.
C'est
une répétition du texte.
Réciter le texte sans intention.
Voilà. Alors non, au contraire, moi, je descends dans un sas, le maquillage, c'est une chose. Après, l'attente. Après, en général, je suis pas loin. Pas directement. Une fois qu'on a fait les marques et tout ça, les prises... Que la technique est réglée, j'attends qu'elle soit complètement réglée. Et moi, je suis dans un coin, même si c'est derrière un paravent, pour entendre la musique du plateau, et je suis dans ma bulle, hyper sérieux. Et puis après, bing. J'aime bien être comme ça.
Si un mec spontané. Me dit,
un peu, parce qu'il faut les supporter, quand on tourne avec des nazes, on te dit, dis donc, Coco, là, c'est une comédie, tu vois, il faut que ça aille. Ah d'accord, bon. Dis donc, c'est un polar. Alors là, quand tu dis au mec, attention, hein, toi tu vas fermer ta gueule, il faut que tu tapes sur la table, attention. Ah, j'ai dit d'accord, ouais. Ouf, et là, il n'y a plus de liberté de rien. Ouais. Et, quand, et je lui dis, mais non, comme tu tournes champ contre champ, machin, que tu vas monter ça, tu peux mettre ce que tu veux. Ah non, puis il faut attendre que l'autre finisse sa réplique. Il dit, à quelle heure on vient demain? L'autre, 10h45. À quelle heure on vient demain? Bah, 10h45. Ah ben non, à quelle heure on vient demain? 10h45. Donc tu dis, alors tu vois l'émotion, comment ça peut passer. C'est tellement en dessous de la vie que t'as honte de faire ça. Et tu te dis, ça n'a pas marché. D'ailleurs,
d'où l'intérêt des plans séquences.
D'ailleurs, ça ne marche, voilà. Voilà. Marche pas.
Ça ne marche pas.
Ouais, parce qu'on ne s'y trompe pas. Le ouais, spectateur ne s'y trompe pas. Ouais.
Leïla, justement, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit mais que Jean-François Stévenin venait. Mais si, les deux oreilles.
Et oui, et quand je pense à vous, Jean-François Stévenin, je pense à tous les réalisateurs que vous avez côtoyés, à tous les grands acteurs aussi que vous avez rencontrés. Mais je pense aussi à une autre expérience beaucoup plus rare dans votre carrière.
Nous veillerons sur toi. On te fera un prix sur tout.
Nous te conseillerons.
Soin et attention.
Ton entrée dans tous les clubs privés, tes pneus de secours.
Les tentes d'oxygène.
Un service de jour et de nuit.
Aux frais de la maison, voilà. On fera de toi un homme, mon fils.
Une femme aussi, si ça te plaît.
C'est un extrait de l'anniversaire d'Harold Pinter. Oh là là.
Ça remonte.
C'est du théâtre.
Oh là.
C'était si avec Laurent Deutsch, Andrea Ferréol, mise en scène Michel Fagado.
Pourquoi vous avez dit si on peut dire?
C'est une catastrophe.
Alors justement, vous dites dans
bon
les interviews,
choix.
Bah oui, c'est pour ça que je l'ai fait exprès. Vous dites, voilà, le théâtre, en fait, parce que c'est vrai, quand moi je vous vois dans les films avec ce côté troupe, je me dis, mais quel magique comédien de théâtre il doit être, Jean-François Stévenin.
Et c'est râpé.
Et ben voilà. Quand vous parlez des expériences que vous avez vécues, vous dites, voilà, le Pinter, c'était un cauchemar éveillé.
Ah oui, oui.
À ce point ?
À ce point.
Pourquoi donc ? C'est l'exercice. C'est quoi ? C'est le choix de la pièce ? C'est l'exercice
non,
en lui-même ?
Non, la pièce est fabuleuse.
C'est qui ? C'est l'équipe ?
Mais le personnage est infernal, infect.
Le personnage ?
Fagado.
Ah, le metteur en scène.
Oui.
D'accord.
Alors après, j'ai appris qu'il fallait pas trop dire ça. Parce que comme il est président du syndicat des machins, je voyais tous les gars arriver, tous focus. Alors Michel, ça va ? L'autre, il a joué au tennis. Ah oui ? Dis donc, parce qu'il y a Roland Garros, ah oui, il peut pas regarder. Ouh là là, personne ne peut rien dire.
Donc ça,
et alors l'autre, pendant six semaines de répétition, l'autre, on ne répétait rien du tout. Et l'autre, alors là, expliquait la pièce tous les jours, en disant, non, parce que quand il dit le gefilt fish, il faut comprendre que, alors, une fois, deux fois, alors Laurent Deutsch, il tournait autre chose, lui, donc c'était bien, il venait que peu de temps.
Ouais.
Moi, j'étais là comme un bon gamin, comme un abruti tous les jours. Rien à faire. Et après, aucune mise en scène possible.
D'accord.
Donc, alors là, alors, tu te dis, on ne va pas y aller.
Et ça ne vous tente pas,
possible.
Vous, de monter une pièce Non, mais de, tout seul, de monter une pièce.
Rêve, le cauchemar éveillé, oui.
Ok, et ça ne vous tente pas, vous, de monter une pièce de votre choix avec vous à la mise en scène?
Mais je ne suis pas trop capable, moi.
Mais vous réalisez des films?
Bah oui, mais c'est tellement un monde différent.
C'est différent,
oui. Alors, par exemple, je suis très troublé d'un truc, c'est Jacques Rouvérolis, l'éclaireur, l'éclairagiste d'Hallyday.
Vous avez d'ailleurs fait une faute d'orthographe au générique.
Oui.
Mais non.
Ah, c'est vrai?
Et ouais, vous avez mis un B à la place du V. C'est Rouvérolis, c'est pas Rouvérolis.
Ah d'accord.
C'est à l'espagnol.
Oh, ouais, c'est vrai, on va dire aussi.
C'est un maître de la lumière.
Alors ouais, lui,
qui faisait les lumières de Johnny d'ailleurs.
Ah oui, de Johnny, de Barbara.
Il a fait la Tour Eiffel aussi.
Oui. Ouais. Et de pièces de théâtre aussi.
Ouais, ouais. De tout. Et lui, pendant quelques années, même maintenant, il continue. Chaque fois qu'il me voit, il me dit, toi, t'es fait pour la scène. Et je sais quoi, tu devrais faire Journal d'un fou, Gogol, que j'ai fait avec Cogéo il y a 30 ans. C'est pour toi, achète le bouquin. T'es fait pour la scène. Il me dit ça alors qu'il me connaît que tout tremblant, puisque moi j'attends que l'idole chante. Alors comme on est copains, moi je vois tous les éclairages qu'il prépare, je passe des nuits entières avec lui sur les stades, et le jour du... Et sur les concerts, ben on est avec le casque, comme je travaille avec eux, à la console de lumière pour éclairer tout le basse-ringue. Et l'autre, là, il me dit, t'as compris ce que je t'ai dit? Dis, tu as repensé un peu à ce que je t'ai dit?
Au théâtre, ouais.
Et vous y avez pensé ou pas?
Mais Gogol.
Ben, j'y pense, mais je vois pas pourquoi, je sais pas. J'ai pas encore le...
Tout à l'heure,
on
va parler. Quelqu'un
vient de s'asseoir avec toi, que
dire.
Visiblement Jean-François Stévenin connaît.
Forcément.
Non, donc c'est bien dommage, mais c'est vraiment... Alors après, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit « Bah oui, forcément, mais tu peux pas rester là-dessus. »
Bah oui, il faut partir.
Mais il n'y a jamais eu la proposition qu'il faut que...
D'accord.
Donc, Jean-François Stévenin, on va parler de sa carrière à nouveau au cinéma et non pas au théâtre. Voici d'abord l'humeur d'Alison Wheeler.
Bonjour à tous. Si je vous dis campagne, vous pensez à quoi? Vous pensez soleil, repos, consanguinité? Eh ben, vous avez tout faux, vous l'avez dans le pot de nut. Car aujourd'hui commence la campagne d'imposition 2018! Yeah! Alors, non seulement, je vous cache pas que c'est mon jour préféré de l'année, juste après le Beaujolais nouveau et la Saint-Valentin pour mes rapports sexuels biannuels. Mais en plus, tenez-vous bien, cette année, la campagne va permettre d'enclencher la réforme du prélèvement à la source qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019. Ah, yes! Putain, oui, c'est bon ça! Prélèvement à la source. Le prélèvement des sources, c'est beau ça, ça ferait presque un film de Marcel Pagnol. Oh, papé! J'ai reçu un papier de la ville. Tu peux me lire, papé, parce que je suis un peu con. Oh, Galinette, t'inquiète pas, c'est la déclaration. C'est Manon! Elle me fait une déclaration d'amour! Oula, non, c'est une déclaration d'impôt, Fada! En effet, t'es un peu con, toi, on t'a fini au pastis? Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, rien! Ils vont te prélever à la source! Ça peut vous paraître bizarre, mais moi, en tant que socialo, gaucho, LGBTQIA, gluten-free, j'aime bien payer des impôts quand j'en vois.
T'as du mal à dire.
Ça passe mal. J'ai très peu dormi tellement ça m'excite. Quand j'envoie mon chèque au trésor public, je suis tellement excitée, une vraie petite midinette. C'était comme si je suis dans un club de strip et que j'allais mettre des billets dans le slip de l'État. J'adore. J'écris sur ma lettre, cher imposteur, je mets des cœurs sur mes i, du parfum sur l'enveloppe et à la fin je signe big bisou bien baveux à mon Bruno Le Maire. Le prélèvement à la source, c'est la promesse de faire moins d'ascenseurs émotionnels quant à ta fiche de paie ou FDP pour les intimes. Et je suis désolée, mais de tous les prélèvements, c'est celui que je préfère. Je sais pas si vous avez déjà fait un prélèvement d'aisselle, hein, personne. Et bah, le prélèvement à la source, c'est clairement au-dessus. C'est un peu comme si le labo venait directement chez vous récupérer le caca pendant votre sommeil dans votre anus. Quoi, zéro souffrance, zéro douleur, zéro finesse.
Zéro tracas.
Moi, je préfère 100 fois qu'on prenne mon argent à la source. Et pour ça, sur ma déclaration, je mets direct l'adresse de Nagui. Comme ça, on gagne du temps. C'est essentiel, les impôts. C'est important que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Les impôts, ça sert à financer la police, les routes, l'éducation. L'éducation, il n'y a rien de plus important. Si on n'investit pas d'argent dedans, faudra encore se farcir 14 saisons des Marseillais. Les gars, ça fait 9 ans qu'ils cherchent du taf. On est sur une vraie détresse, là. Les impôts, ça sert aussi à la recherche, aux hôpitaux. C'est essentiel, rendez-vous compte. Bientôt, faudra faire 900 km pour trouver une maternité en France. Du coup, la majorité des bébés qui naîtront à l'hôpital auront déjà 4 ans et ils marcheront en arrivant à la maternité. C'est scandaleux. Vous l'aurez compris, j'adore payer des impôts. C'est ma façon de dire merci au monde et de dire merci à l'État de m'avoir tant aidé quand j'en avais besoin à devenir la grande polémiste et critique scato-littéraire radio que vous connaissez. Alors, un peu de courage, voyons. Pour info, vous avez jusqu'en mai pour envoyer votre déclaration ou pour faire vos valises et vous barrer au Portugal.
Merci,
Monsieur. Petite corée de fin. France Inter. La bande originale.
Le haut de plaisir de Jean-François Stévenin, c'est quand il a vu Guillemette Audicino nous rejoindre. Elle en bave.
Tout le monde bave ce matin.
J'ai pas bu au bon moment.
Non, c'est ça. Vous êtes, je le rappelle, journaliste pour France Inter et pour Télérama. Vous avez présenté On se fait des films pendant les mois d'août. Le mois d'août, pardon. L'été 2016. Ouais. Ça vous reprendra d'ailleurs de travailler
Ça m'a même repris l'été précédent, Nagui.
Non, mais l'été prochain, j'ai dit.
Ah, et l'été prochain ? Ah, il y a des chances. On en parle.
Très bien. Et tous les vendredis, vous êtes avec Ali Rebéi dans Grand Bien vous fasse. Vous êtes la référence cinéma de cette antenne. Justement, comment, puisque nous avons Jean-François Stévenin qui est...
Laurent Delmas aussi.
Qui est restaurateur.
Qui viennent de s'évanouir, là.
Qui sont les références cinéma tous les week-ends sur France Inter.
Mais d'après la moi, c'est Guillemette. Rien de foutre, ils n'ont qu'à venir là.
Moi, c'est Guillemette. On pourrait passer à Jean-François aussi.
Donc, la version restaurée de Jean-François Stévenin est avec nous ce matin. Jean-François Stévenin, dans la case Jean-François Stévenin, vous avez quel qualificatif? Qu'est-ce qu'il représente pour vous au cinéma? C'est difficile de le dire devant lui, mais c'est pour expliquer aux auditeurs.
Oui, c'est difficile de dire à quelqu'un qui est en face de vous que vous êtes amoureuse de lui. Non, Jean-François Stévenin, c'est un diamant qui peut être ou bleu comme ses yeux ou noir d'après les films. C'est quelqu'un vraiment de particulier qui en fait ressemble dans ses rôles et en tant qu'acteur au film qu'il réalise. C'est-à-dire c'est comme un bel accident. Tout d'un coup, il rentre dans le plan, il rentre dans le champ Et on sait qu'il va se passer quelque chose d'inédit, d'inhabituel. On ne sait jamais ce qui va se passer, en fait, avec Jean-François Stévenin. C'est ça qui est magnifique. C'est exactement comme dans ses films.
Alors, il y a, voilà ce que j'allais dire. Il y a le comédien et le réalisateur. Pour ses films, on peut qualifier ses films de films d'auteur. Mais quand on dit film d'auteur, c'est justement, c'est inclassable. On ne sait pas dans quel genre on est. On ne sait pas s'il faut s'inquiéter, s'il faut rire,
Il faut pas s'inquiéter du tout. Non, mais... Parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'on devrait s'inquiéter de la liberté. Les films de Jean-François Stévenin sont sans doute les plus libres qui ont été réalisés. Peut-être, je fais des grandes phrases, mais peut-être si les trois films les plus libres du cinéma français. On le compare un peu à John Cassavetes, parce que c'est aussi des histoires d'amitié, des histoires de mecs, des histoires de gnôles quand même. Il faut ça picole. Hein. On n'a pas suffisamment insisté.
Il y a Cassavetes, ouais, c'est
vous
ça.
Vous le mettez au générique.
Oui, au générique.
Ouais. Donc ça pourrait être, mais c'est jamais bon le jeu des comparaisons. Mais ça pourrait être notre Cassavetes français, mais en fait non, c'est juste notre Jean-François Stévenin. C'est-à-dire, ce sont des films qui ne ressemble à rien, exactement comme si on claque la porte, on prend sa bagnole, elle tombe en panne dans le Jura, et là on attend de voir ce qui se passe, et en fait c'est magnifique d'attendre de voir ce qui se passe.
Et le fait qu'il n'y ait qu'un film tous les 10 ans, je résume, enfin qu'il n'y ait que 3 films dans sa filmographie, ça rend ça encore plus rare et donc plus culte.
Oui, alors c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire c'est magnifique que du coup ça devienne culte, mais c'est pas les raretés de ces films qui les ont fait devenir cultes. C'est leur qualité, leur poésie, le fait qu'ils ne soient nulle part dans le paysage classique. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'il en fasse plus, mais en même temps s'il en faisait plus, est-ce qu'il du coup
il serait magique.
Oui, ouais. Ce serait aussi magique. C'est compliqué la notion de rareté. Hein. En tout cas, faut pas manger du caviar toutes les 2 secondes. C'est sûr qu'après on se lasse, donc il faudrait quand même que. Mais il faudrait qu'il en réalise un autre. Jean-François Stévenin, non ? Oui ?
Ben non, terminé.
Pourquoi ?
Parce que moi, ça me prend trop de... C'est très fatigant. C'est-à-dire que, comme j'ai jamais assez de temps pour tourner, parce que c'est des films qui sont pas avec des millions de dollars, ça me fait travailler 15 heures par jour de tournage physique, donc 2 heures et demie de sommeil par nuit. Et pendant la préparation, c'est pareil. Pendant le montage, c'est pareil. Et le mixage, encore.
Donc, c'est
pire
physiquement,
et mieux.
Physiquement, c'est crevant.
Ah oui, c'est 5 ans en dormant 3 heures par nuit. Mais ce qui est le cas de plein de metteurs en scène. Moi, quand je lis la biographie de Polanski, quand je vois que tout ce qu'il a fait supporter, ce petit bonhomme, pour arriver à faire ses trucs, mais c'est absolument incroyable. Il faut un moteur énorme. Pareil pour John Borman, pour n'importe quel grand. Donc, c'est pas moi, pauvre petit malheureux. Simplement, là, j'ai plus la force de me dire, allez, les 5 prochaines années, c'est parti.
Qu'avez-vous envie de dire à Guillemette, qui est critique, cinéma aussi, en vous adressant à Guillemette et aux critiques, en disant, mais justement, pendant 5 ans, on ne dort que 2 heures par nuit et on met tout ce que l'on a dans notre énergie, notre esprit, voire notre budget dans le film, pour que. En une phrase, en un papier, un critique puisse tout démonter, tout casser.
Oui, ben j'ai eu assez de chance là, parce que moi, les critiques ont toujours été.
Oui,
ça m'a assez sidéré ça.
Des gens aussi. Il n'y a rien de sidérant dans le fait que l'on adore vos films, ils sont adorables.
Ça n'a pas toujours été le cas pour Polanski.
Non, j'ai eu vraiment de la chance là-dessus, vraiment de la chance, les critiques. Ah non, je suis très sensible. Ben, là, il m'a coupé un peu le sifflet avec son histoire de diamant aux yeux bleus et tout ça.
Ah, c'est votre côté joyeux, ça.
Mais c'est vrai.
Non, mais le fait, ce que tu dis, c'est d'arriver dans le plan et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ça, je ne savais pas que c'était à ce point-là.
Mais j'écoutais tout à l'heure cette chose, mais je crois qu'il vient un peu de François Truffaut, en fait, de L'argent de poche, où il ne disait pas grand-chose. Bon, il faut que les gens revoient L'argent de poche de François Truffaut avec Jean-François Stévenin dans le rôle principal de l'instituteur. Mais je crois que sur le tournage, en fait, François Truffaut ne vous disait pas grand-chose. C'était au regard, c'était puis vas-y, débrouille-toi, on verra bien.
Voilà.
Je pense que du coup, vous avez hérité, enfin, vous continuez dans cette méthode-là. C'est pour ça que les réalisateurs qui vous racontent 14 fois comment il faut tenir votre clope ou taper du poing sur la table, ça vous emmerde. Mais ça vous a donné cette liberté. Et du coup, nous, on est toujours en attente de ça, de cette liberté que vous allez avoir.
Et c'est vrai que François m'a beaucoup influencé comme ça, parce que j'avais fait 6 ou 7 films avec lui, à la décoration, comme régisseur, à différents titres. Oui, ou aussi la nuit américaine.
Ah bah, la nuit américaine, oui.
Et l'argent de poche, quand ça arrive, bon, il dit presque rien. Et j'avais des trucs bizarres avec lui. Je dois arriver tout essoufflé parce que j'ai pas dormi, ma femme a accouché, les gosses, l'école, on est en retard. Alors j'avais dit, François, ça vous embête si je pars du palier d'en bas quand j'entends le clap pour arriver.
Essoufflé.
Alors, on me disait, non, mais t'es complètement fou, la pellicule 35 mm. Moi, je pouvais pas être là avec tous les gamins qui vont regarder. Et puis, on fait le tap et ça y est, c'est parti. Donc, je partais d'en bas. Il me dit, mais bien sûr, Jean-François, bien sûr. Quand j'arrivais,
oh. Vous êtes de l'école de Dustin Hoffman. Et là, j'improvisais des petits
trucs. Alors, il me disait
c'est
toujours...
C'est l'histoire de Marathon Man. Vous êtes de l'école de Dustin Hoffman.
Laurence Olivier et
Dustin Hoffman. Ah, ouais. Faisait des tours de piste pour être vraiment essoufflé. Et Laurence Olivier, du haut de sa splendeur et un peu de sa morgue, lui a dit « Enfin, on peut très bien faire semblant d'être essoufflé sans faire des tours de stade. » Mais Dustin Hoffman n'y pouvait pas faire semblant d'être essoufflé.
Moi, j'avais l'autre point de vue, pardon, j'avais l'autre anecdote qui disait Dustin Hoffman donc faisait un tour du lac pour arriver transpirant et soufflé et comme en faisant un jogging. Laurence Olivier l'attendait sur le côté et au moment où Dustin Hoffman arrivait, il le rejoignait pour faire les deux pas avant de jouer. Et Dustin Hoffman dit c'est incroyable, sœur Laurence Olivier, mais comment faites-vous pour donner l'impression comme ça que vous avez fait le tour du lac? Et Laurence Olivier lui a répondu, I'm only acting.
C'est
ça. Je ne fais que jouer, alors sous-entendu, toi, t'as besoin de courir.
Non, non, c'était... C'est les deux versions, ça dépend de quel des deux a plus de mépris pour l'autre.
Alors ça, c'est des durs. Moi, j'avais été sidéré comme expérience d'acteur par André Dussolier, l'immense André Dussolier. On tournait, il faisait très chaud, il faisait 42 degrés, on tournait à Ivry. On va, hein, et... Après le repas, je voyais... Alors, on tournait une comédie, en plus, hein, tranquille. Et André me dit, attends, je t'écoute, mais non, là, il me faut... Avant qu'on reprenne, il faut que je me... Ah bon, d'accord, ok, je le sais. Et par la fenêtre, je vois, qu'est-ce qu'il faisait? Habillé en costume, il faisait le tour du pâté de maison en courant. André Dussolier. Et du coup, d'ailleurs, un jour comme ça, à 6 heures du soir, il faisait tellement chaud, il est tombé en syncope. Le SAMU qui est arrivé, on se demandait ce qu'il avait. Donc, lui, vraiment un acteur immense, a besoin de, après la
préparation
la pause
physique,
déjeuner, l'après-midi va arriver, on arrête de discuter, gna de partout, on n'est même pas dans sa loge comme ça en train d'attendre, et bien il va courir, c'est le mieux. Moi, je faisais des katas de karaté avant, tout au début, en me cachant, pour pas qu'on me voit comme un dingue. Je me rappelle avec Florent Pagny, lui qui avait 17 ans, on tournait un film avec Édouard Niermans, Aimé Public numéro 1, avec Dominique Valérage, avec Sentier, tout ça. Et lui, il chantait derrière le camion. Et moi, j'étais là. Parce que c'était le truc qui me vidait. Vraiment, on sait que ça va être dans 10 minutes. T'es là dans un coin, t'es là, tu penses à rien, t'es là.
Canaliser l'énergie.
Ouais. Et après, et hop. Le jump.
Je peux juste dire, vous avez vu, et hop, le jump. Vous avez vu la voix, enfin vous avez vu, vous avez entendu. Il y a la voix aussi. La voix, la manière de scander les phrases, presque d'être à la limite du borborygme, comme dans ces films d'ailleurs, dans ces trois films, il y a toujours un jeu sur même le borborygme et tout. Comme si c'était pas la peine de dire des longues phrases. Il y a une voix, un mot, et puis l'émotion, elle est directe là.
Alors quel autre comédien on peut mettre dans le clan, entre guillemets, Stévenin, les Bourringer, les Léotard?
Oui, les Bourringer, les Léotard.
Léotard.
Plus... Ah, on a. Bourringer, non.
Procès. Roland Blanche.
Roland Blanche. Ouais. Tout ça ne boit pas que de l'eau quand même. Hein, on est là aussi d'accord sur une famille de gens qui savent vivre. Il faut quand même que je dise qu'une fois, je suis allée interviewer Jean-François Stévenin chez lui. J'ai eu cette chance magnifique. Alors, si par hasard, chers collègues journalistes, vous y allez et que vous arrivez à 11h, sachez que vous ne repartirez pas avant 19h20.
C'est vrai. On est
c'est vrai.
Un bon moment. Hein.
Avec un peu mal aux cheveux, mais c'est un souvenir impérissable.
Non, mais c'est bon, des bonnes raisons. On va s'en séquestrer.
Ah non, ce sont plus.
On était bien.
Et quand on était bien, oui, et quand bien même, on se ferait séquestrer volontairement. Mais il y a quelque chose aussi de chaleureux, de familial. Mais en fait, les acteurs qui peuvent être comparés ou à Jean-François Stévenin, c'est ça. Ce sont aussi des acteurs de famille ou des acteurs, quand on s'assoit à leur table, on sait qu'on va discuter, qu'on va pas parler que de cinéma. qu'on va parler
pardon,
de la vie, qu'on va parler...
Pardon, il y a Robinson,
Stevenin. Moi, quand je le vois dans la villa de Guédiguian et que je le vois incarner ce pêcheur poète, on a envie d'être toutes amoureuses de Robinson. Non, mais c'est vrai. Et quand je vois vos films après, je me dis, voilà, cette folie douce, cette tendresse, cet œil bleu comme ça, ce diamant, c'est là, ça vient de là.
Il y a la gueule aussi, un tout petit peu.
Jean-François.
Oui, non, mais c'est vrai.
Il est content.
Non, mais la gueule. Ah, oui, il est content. Il sourit comme un as, il est content.
Jean-François, vous savez aussi que vous êtes ce qu'on appelle une gueule, mais au sens positif du terme.
Au sens faciès.
Ouais.
Bravo. Moi, je ne sais pas trop, non. Franchement, non. Je me dis, si j'ai une gueule comme ça, il m'appellerait sans arrêt pour tourner. Je ne tourne pas, personne ne m'appelle, moi.
Vous, comment ça?
Ah non, ça fait 10 ans que je ne tourne quasiment plus. Si, là, j'ai fait le film, je vous conseille ça, Jeanne Edry, la fille de Julien Clerc et de Miu Miu, qui vient de faire un très, très beau film, où j'ai tourné quelques jours. Et aussi, on va tourner bientôt avec Isabelle Brocard, un film qui s'appelle L'infinie tendresse que j'ai pour toi, avec Karine Viard, qui a le grand rôle, avec
l'histoire
Madame de Sévigné, les lettres à sa fille, tout formidable. Peut-être en octobre prochain, deux jours.
Ça vous laisse le temps de faire un petit Pinter sur scène ou
En attendant, pour être dans l'actu, la future actrice cannoise, il faut voir l'enfant d'en haut d'Ursula Meyer, puisqu'elle va être présidente de la Caméra d'Or à Cannes cette année. Donc, allez, il y a croisement d'actu. Jean-François Stévenin et Ursula Meyer en même temps.
Et si on devait parler des héritiers de Jean-François Stévenin dans la nouvelle génération, on penserait à qui?
Le jeu des familles et le jeu des héritiers, c'est toujours compliqué. Moi, j'en vois un.
Dwayne Johnson.
Non, moi, j'en vois un, c'est Philippe Rebaud. Alors c'est plus allongé, c'est plus long, c'est plus en version grand et rond, mais il y a quelque chose comme ça de délicieusement suspendu, de poétique, d'extrêmement intense en même temps. Le genre de type, quand on les regarde vite, on se dit qu'il a seulement une gueule, et quand on les regarde de près, on se dit qu'en fait ils sont satanément beaux.
Le piège de ces caractères, de ces tronches justement, et de cette manière de jouer et au cinéma, est d'être traité toujours comme un second rôle, jamais comme le porteur du
rôle
titre.
Oui, mais souvent, évidemment que ça peut être embêtant.
Ça veut dire que c'est pas un rôle important. Hein,
mais... Oui, ça peut être embêtant parce que ça peut empêcher certains acteurs d'accéder à des premiers rôles. Mais ce sont quand même, aux États-Unis, on dit le supporting actor.
C'est ça.
Et c'est une jolie appellation. Parce que souvent, faut quand même être honnête, l'acteur principal est une endive. Mais pour des raisons mystérieuses, on met du fric dessus et ça peut aider à produire le film. Mais s'il n'y avait pas le supporting derrière, le film serait d'une fadeur absolue. Et on attend toujours que Jean-François Stévenin ou des gens d'un talent équivalent rentrent dans le plan parce que ça commence à nous emmerder avec l'acteur principal.
Puis même, on a eu des exemples en France, par exemple Gabin qui, pour n'importe quoi, un gars qui vient dire deux mots dans un restaurant, prenait le meilleur.
Exactement.
Parce que c'est simple, plus on a quelqu'un en face, plus ça monte.
Puis les Bernard Blier,
Mais même les Michel Simon, si on veut partir.
Oui, il y a des acteurs, il y a des films, pour être tout à fait franche, on va les voir pour ce qu'on appelle les seconds rôles, pas vraiment pour les premiers rôles. Ne serait-ce que Jouvet et Arletty dans Hôtel du Nord, au départ, c'était pas eux, les héros. C'était les deux jeunes premiers, les deux tourtereaux. Ah, et quand Henri Janson a écrit le scénario, il s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont plats, ces deux... qu'est-ce qu'ils sont plats, ces deux acteurs? On va pas pouvoir faire un film là-dessus. C'est pour ça qu'il a chargé la barque à mort.
On apprend.
Oui, non, mais c'est pour ça qu'il a écrit
l'encyclopédie du cinéma.
C'est grâce à ça qu'on a eu Atmosphère. Parce que les deux acteurs principaux étaient mous du genou.
Devant un décor, un décor reconstruit et pas devant le véritable Hôtel du Nord.
Exactement.
En plus, c'était en studio tout ça. Merci Guillemette Olicino d'être venu à ce micro.
Merci.
Et on attend des nouvelles de cet été.
C'était un plaisir. J'en donnerai.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Dieudonné continue à se produire en spectacle partout en France.
Oui, mais comme il est blacklisté de tous les lieux de culture, il est obligé de vendre le spectacle sous une fausse appellation. Il y a marqué Soirées ou Club. Vous prenez du Viagra et un string. En fait, c'est Dieudonné et durant tout le spectacle, vous êtes en érection pour rien. Exemple, ce week-end près de Nice, où un château pensait programmer du théâtre classique, mais on était très loin de Molière.
On en parle dans la deuxième partie. Notre invité jusqu'à midi et demi est Jean-François Stévenin. C'est la bande
originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kaddou Boudali.
Bonjour à tous.
Alissa Douila.
Bonjour.
Tanguy Bastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Albou.
Bonjour.
Et notre invité Jean-François Stéphane.
Jean-François qui fait un plan séquence sur nous avec son petit appareil photo. C'est trop mignon.
Ils se sont trouvés mixés avec Lance Le Saunier.
Il filme les séquences. Alors, parlons de ces trois films. Passe-Montagne, Double Messieurs, Mishka. Trois road movies quand même, parce que tous ces films sont en mouvement pour différentes raisons. Que ce soit avec le premier film Passe-Montagne avec Jacques Villeray qui tombe en panne avec sa Mercedes. Si ma mémoire est bonne, sur une aire d'autoroute. Alors, faut dire que vous, votre personnage vit, quand on roule comme ça sur l'autoroute, on passe à côté de certains portails, il y a des grands comme ça, des grandes ouvertures d'autoroute qui sont fermées à clé, cadenassées et autres, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté d'un portail sur l'autoroute, et ben c'est là où vit le personnage, il est derrière, il est dans son monde, à son rythme, garagiste aussi, mais pas reconnu comme dépanneur officiel des autoroutes françaises, et c'est là où se fait la rencontre avec Jacques Villeray. Double Messieurs, c'est l'histoire donc de deux copains
qui se retrouvent,
qui essayent de retrouver le troisième.
D'abord qui se retrouvent, qui tombent l'un sur l'autre.
25 ans après. Ouais. 25 ans après, et qui essaye de trouver le troisième. Et là aussi, c'est un road movie. Et le dernier, c'est un papa qui est abandonné. Alors, il y a plusieurs histoires en mouvement qui se croisent. Un papa abandonné et une jeune adolescente qui va à la quête de son père avec son fils. J'ai essayé de résumer le mieux possible les trois.
Et il y a deux films où il y a exactement le même plan avec une voiture qui coupe la route au même endroit. Vous avez vu ça? Au niveau d'un passage à niveau où on a un gros virage à gauche, c'est exactement le même plan à une heure différente de la journée. Je me suis dit, tiens, il y a un truc avec... Je ne l'ai pas retrouvé dans le troisième, je l'ai cherché.
Oui, celui-là, je l'ai recollé, c'est un plan de Double Messieurs.
Ouais.
Et qui avait été hyper dangereux à faire. La production ne voulait pas que je fasse d'ailleurs. Moi, je conduis la voiture et j'arrive à une intersection de virages, de camions. Et j'avais de la production, me disait, non mais on va... Qu'est-ce que... Non. Moi j'étais à la Courte Paille qui était juste à côté, parce que c'est un endroit que j'aime bien, la Courte Paille.
On le voit bien, et puis, on le voit bien plein cadre, Courte Paille.
Et j'avais dit non, on va tourner ça à l'heure bleutée, c'est pas la peine de tourner ça à 4h de l'après-midi, ni à 11h du soir. Entre chien et loup, juste cette lumière impalpable, avec les phares qui s'allument, où tout devient dangereux parce qu'on bascule dans la nuit. On tourne ça, je parle de tel endroit, là-bas, on est positionné. Vous êtes au milieu, vous n'avez qu'à simplement faire un panoramique avec la caméra, vous pouvez la répéter tant que vous voulez. Je vais passer hyper vite.
Cascadeur.
Quand je revois le plan, effectivement, je passe à ça dans un camion, un truc, c'est une fois, non, pour une fois, personne ne voulait le refaire. Personne. Alors du coup, je l'ai recollé dans Mishka, dans un rêve, etc. J'ai mis ce plan-là parce que voilà.
Le 18 avril, au cinéma, la version restaurée donc, de ces films, avec les plans clin d'œil. Et puis, ils sont très cohérents. Et on voit en même temps l'évolution de votre travail, tant sur les rythmes que les dialogues, que le jeu, mais en gardant votre manière de travailler, votre manière d'écrire, votre manière de diriger avec Jacques Villeray, Carole Bouquet, Jacques Villeray pour Passe-Montagne, Carole Bouquet dans Double Messieurs et Johnny qui illumine et à qui est dédié Mishka. Ça c'était en 2002 pour ce dernier film et c'est vrai que depuis, comme l'a dit Guillemette tout à l'heure, plus de films, plus l'envie parce que vous voulez dormir ou pas l'idée du film?
Ah non, si, moi j'avais un scénario tout prêt et tout, mais quand j'ai eu fini quand c'était tout terminé. Bon, j'avais un producteur aussi, Antonin Dedet, frère de Yann Dedet, mon copain monteur. Antonin Dedet qui marche très fort, qui a une boîte qui s'appelle Néon Productions et qui tous les ans arrive à voir un film chez Robert Redford, un film à Berlin, un film tout ça. Vraiment un gars que j'ai vu naître, encore une histoire de famille, et qui un jour après qui m'a dit « Un jour, si je suis producteur, je vais me botter le cul, on fera un film. » Alors il avait trouvé des sous et tout ça. Bon, et puis là, non, je me sens pas capable d'assurer 5 ans en dormant 3 heures par nuit. Non.
Ok, j'insiste pas. Nous, on va continuer de parler de Jean-François Stéphane, comédien, puisque ça sera le cas dans le prochain film de Jeanne Herry. Mais d'abord, voici Tanguy Pastureau qui maltraite l'info.
Tanguy.
Tanguy Pastureau est sur France Inter, messieurs dames. Et Tanguy, ce week-end, Dieudonné était en spectacle dans le Sud.
Oui, alors qu'au départ, ça avait moins de chances de se dérouler qu'un QCM de culture générale sur Énergie 12. Flashback, Dieudonné sur son site web annonce qu'il sera en spectacle le 7 à Nice, la ville des Galets et de Christian Estrosi. Pour les distinguer, Estrosi, c'est celui qui ne vous rentre pas dans les fesses. Ou alors, il faut papoter un peu avant de, pour briser la glace. Seulement, Estrosi déteste Dieudonné. Il faut dire que ça fait 10 ans que l'autre multiplie les provoques comme l'ont fait avec les pins Jésus puis Banette. Il en veut notamment aux juifs, alors que c'est déjà assez dur comme ça d'être juif. Hein, tous les vendredis, on doit se taper sa famille, on bouffe des trucs vaguement tunisiens qui en 7 secondes vous collent un gros pneu au niveau du bide, qui font que si Philippe Lelouch de Top Gear vous croise, il vous prend pour un SUV et vous tripote. Au mariage, on se farcit du rachita au lieu de la danse des canards. C'est nul. Donc Dieudonné, c'est qu'à Nice, il sera interdit. Donc il contourne le truc et réserve un lieu à 20 km de Nice. Distance qu'une seigneur locale peut parcourir sur le dos de son Yorkshire en 3 ans et demi. Au dernier moment, il envoie un SMS à ses fans pour leur dire où ce sera. En l'occurrence, au château de Vaugrenier à Villeneuve-Loubet, une bâtisse classée, comme tous les vieux trucs, chapelle, manoir, Gérard Collomb. Là, 600 personnes déboulent, soit 600 de plus qu'à la Gay Pride de Kaboul. Des blancs, et écrit Nice matin, des blacks et des beurs, tous unis dans la haine de l'autre, qui finalement est avec une Coupe du Monde de foot gagnée par la France, le seul vrai lien social. La gérante du lieu, surprise par l'aspect bigarré de la foule, c'est comme une pub Benetton mais sans pull, demande à un type ce qu'il est venu voir, l'autre répond Dieudonné. Elle convulse, parce que ce qui était calé, c'était du théâtre classique. Hein, du Molière, des mecs à perruques poudrées, avec des servantes en soutif push-up, qui se font des lavements et des piqûres, en disant ça c'est rien, tu vas voir dans 300 ans, sous Agnès Buzyn, ce sera 11 vaccins, alors Alcandre, arrête de chouiner. Parce que Dieudonné, qui est tricard partout, vend son spectacle sous un titre mensonger. Hein, parfois, il y a marqué la compagnie créole, vous révisez, ça fait rire les oiseaux, l'autre se pointe, et comme vous vous êtes pas fait yèche à apprendre bas moins un Thibaut pour rien, vous vous inscrivez à N'oubliez pas les paroles, histoire au moins de repartir avec du brosouf. En fait, le château, donc, a signé un contrat avec la société L'Esprit de la Forêt, hein, donc il pensait qu'il s'agissait de Zadis Crado viré par Macron en reconversion professionnelle, qui faisait des macramés avec leurs poils, tout en chantant du zaz avec des cheminots.
En réalité, il s'agit d'une société qui appartient à sa femme, c'est ça, la femme de Dieudonné.
Oui, à sa compagne. D'ailleurs, à Bayeux, ils ont vendu une conférence sur des produits cosmétiques. Résultat, le maire a vu débarquer Dieudonné. Voilà, c'est toujours le même topo. Un spectacle sur deux, en fait, c'est lui. Hein, vous allez voir Eddie Mitchell au Palais des Sports, vous vous dites super, ça va crooner. Si j'emballe pas sur Couleur Mentalo, j'emballerai jamais à moi la mononucléose. Résultat, c'est Dieudonné qui réplique en vous expliquant qu'ils sont partout et dominent le monde, sans dire qui, à cause de la loi. En fan d'Eddie Mitchell, vous pensez à un complot, vous dites, il parle des chauves, tous ces aigres jaloux de Schmoll à cause de sa banane. Seulement, bon, là, le souci, c'est qu'à Villeneuve-Loubet, les gens ont garé leur voiture dans une prairie du château et que ça a ravagé le site, comme la tête de René Zellweger qui joue Bridget Jones après sa chirurgie. La propriétaire du site, Nadège Le Lédan, est aussi furieuse qu'Édouard Balladur quand Sylvain Jean, son majordome, dispose son sucre dans sa soucoupe plutôt que de la mettre dans sa tisane. Elle explique à France Bleu Azur. C'est comme France Bleu Nord, sauf que les gens qui écoutent ont de l'argent. Qu'elle venait de refaire l'arrosage automatique de la pelouse. Hein, toutes les 3 heures, elle est arrosée, soit 2 fois moins que Benoît Poulvorde. Et là, à cause des voitures, tout le système est détruit, dit-elle. Elle est obligée de mettre le bouquin de François Hollande au milieu de l'herbe. Du coup, malédiction, il pleut dessus. Et ainsi, 4 fois par jour. Car le fan de Dieudonné a la délicatesse du vétérinaire de Brigitte Bardot qui, par jour, a 9 chats et 8 ânes à castrer. Un Nice matin qui a assisté au spectacle raconte que le Gus, pour se moquer d'Estrosi, le surnomme quand même Estrozézette. Hein, avant, il l'appelait Estrozizi, mais bon, il a réécrit ses sketchs en mettant plus d'intention littéraire. Donc, on nous fait tout un truc en disant que c'est le meilleur en activité, mais moi, si je veux entendre un gonze dire Estrozézette, je vais dans une maternelle. Les gosses, certes, sentent l'urine, mais au moins, ils prennent pas 30 euros pour un jeu de mots sur le sgeg. Bref, cette dame dit avoir gagné 2000 euros avec Dieudonné, mais en avoir perdu 5000 en dégradation. C'est comme une rêve sauvage. Hein, vous louez un chant à DJ Bizou qui vous dit qu'il y aura 30 potes. À 1h du mat, ils sont 30 000 à danser en treillis, tels des bidasses de l'opération Barkhane et qui Édouard Philippe aurait refilé du calvat de ferme de son oncle près du Havre, sur les sons de DJ Dark et DJ Froid. Mais surtout, elle est énervée. Énervée d'avoir accueilli Dieudonné parce que, explique-t-elle, il donne une image détestable à son bien. Hein, là, Stéphane Plaza l'a appelé, selon lui, le château ne vaut plus que 14,20 €. Donc, attention, si vous allez allez voir ce soir Coldplay ou Kinvé et qu'à un moment ça parle soit de quéquette, soit de domination mondiale, il est possible que le Zénith de Nantes ou Paris-Bercy ait signé avec l'esprit de la forêt.
Merci Tanguy Dassiot. Alors, n'en déplaise, Albert, j'aimerais quand même parler de l'esprit de famille, parce que c'est quand même l'un des éléments importants, même si votre famille n'est pas qu'une famille de femmes et d'enfants, la famille la plus proche, je pense que le cercle familial est plus large que ça. On parle de troupe, on parle de bande, on parle de cirque. Il y avait des amis et des enfants avec lesquels il fallait absolument tourner.
Oui, parce que je tourne tellement lentement et si peu... que c'est la famille qui me supporte, au sens de supporting acteur, comme disait Guillemette tout à l'heure.
Qui vous soutient.
Qui soutient et qui en bave. Parce que dès qu'on a un film en tête, et avant que ça soit vraiment prêt à réaliser, il y a quand même 2-3 années bien glauques où moi je pense qu'à ça. Comment faire avancer le schmilbic, si je ne tourne pas comme acteur, je pars avec des potes, essayer de trouver des idées de scénario, j'appelle un truc de sparring partner, où moi je radote la même histoire, je trouve des trucs, on part 8 jours, après c'est le tournage, il ne faut surtout pas embêter le pauvre chéri qui vient de tourner. Quand il revient, il n'est pas à peindre avec des pincettes parce qu'il trouve que c'est nul. Enfin bon, c'est infernal. Donc, tant qu'à faire, une fois que le film est parti, emmenons tout le monde.
Alors, dans ce tout le monde, quel que soit l'âge...
Mais j'ai pas assez emmené.
Si, parce qu'ils étaient... alors, que ce soit
Salomé, Léo...
Robinson, Sagamore, ils sont tous forcément dans vos films.
Ben, Sagamore, non.
Non, pas Sagamore.
Non, il a joué comme bébé dans Passe-Montagne, un plan. Robinson,
bah, il y est.
Ah, il y est, oui.
Robinson...
Robinson a fait un plan aussi dans Mishka et Salomé a eu la plus grosse part. Le petit Pierre qui avait 4 ans,
qui fait le petit frère,
des rôles principaux. Ouais. Et ma femme d'ailleurs joue aussi la femme dans Mishka. Alors, il paraît qu'il est très très bien. Ça, c'est Binoche qui lui a dit ça.
Elle joue quoi dans Mishka?
Mishka.
Elle joue la femme d'Afonso.
Ah d'accord, ok. Ouais, très bien.
Voilà.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça donne une chaleur. L'influence de Cazavet, c'est direct. Parce que.
Alors, justement, revenons à lui, parce que vous le mettez au nom du.
Générique, comme passeur d'énergie, comme quelqu'un qui donne la pêche et tout ça. Parce que moi, quand je travaillais avec Rivette ou Truffaut, j'aimais bien comme assistant. Mais les films ne m'intéressaient pas vraiment. Alors, quand j'ai vu les films de Monty Hellman ou de John Cazavet, là, j'ai eu l'impression d'un cousin, quoi, qui était vraiment de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne savais pas que c'est comme ça, moi. Et il était... Alors, le fait de mettre sa femme à chaque fois, de mettre les mômes, donc ça donne une tendresse au film, le fait de ça ruisselle d'amour, Love Streams, vraiment, comme le titre de son dernier film. Et puis après, ça donne aussi d'autres incidences, comme par exemple le fait qu'il monte à la maison. Ça, c'est Labarthe, le regretté Labarthe qui a disparu il y a peu de temps, qui avait filmé avec ça. On voit John dans son garage. Bon, avec Grand Perret, Patrick, qui joue d'ailleurs là aussi une histoire de famille, c'est mon frère de cinéma, lui. Il joue dans Mishka, il fait le père que cherche vainement Salomé. Et d'un seul coup, monter dans chez soi, c'est le luxe absolu, parce que tout devient très simple. Le film tourne là 24 heures sur 24. Moi, quand je montais les derniers films, vraiment, je retrouvais, il y en a un qui dormait dans le sauna, un autre sur la terrasse. Le gars, il veut partir, il part.
Ce qui fait que les enfants,
quelqu'un qui amène de la bouffe.
Ce qui fait que les enfants sont totalement piqués par l'amour du cinéma et du jeu. Eh ben oui,
parce qu'ils n'ont rien voulu faire d'autre, hein, finalement. Il faut dire que Robinson, très rapidement, lui, il avait 8 ans, il avait fait un film La Révolte des Enfants, où il était complètement craquant, il a eu le prix de la jeunesse, remis par Chirac et tout ça. Donc après, les gens m'appelaient en disant « Ah, le petit, on peut le voir », parce que Robinson tournait sans arrêt.
Et Robinson, il a un côté Jude Law, vous avez un côté Jack Nicholson, je me dis quand même, dans la filiation cinéma, ça va quoi. C'est vrai, hein.
Et Salomé, c'est quoi? Julianne Moore?
J'ai pas encore identifié, mais...
Salomé, elle avait accompagné Robinson, enfant, sur un truc, puis on lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux pas essayer de faire quelque chose? Bon, puis c'est pareil, il a tourné plein de films.
C'est vrai qu'il y a un côté Whoopi Goldberg et...
Mais non, n'importe quoi.
Non, je confonds, là.
N'importe quoi, n'importe quoi. Il était temps qu'il en parle, tiens. Daniel Morin, le voici à son
plus. Il est grand le mystère de la foi. Hier soir, Emmanuel Macron a fait pénitence. Oui, c'est inédit. Notre président s'est rendu au collège des Bernardins, où il était reçu par plus de 400 évêques et autres personnalités catholiques françaises. Mais pourquoi tu fais ça, Manu? Pourquoi? Tu ne savais pas ce qui t'attendait, mon petit bonhomme.
Bonjour, Emmanuel. C'est gentil d'être venu nous voir.
Mais fais normal, fais normal.
Chut, tais-toi, mon garçon. Tais-toi. Quand t'es-tu confessé pour la dernière fois?
C'était il y a 30 ans, je crois.
Ce n'est pas bien, Emmanuel. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas péché mortel. Nous allons en profiter pour le faire immédiatement.
Ah oui, mais c'est-à-dire que...
Allez, fais un effort.
Bon, ok. Pardonnez-moi, mon père, mais... VPC.
Oui. Dis-moi. Dis-moi tout.
J'ai dit aux retraités que j'allais m'occuper d'eux et je ne l'ai pas fait.
Oui.
J'ai dit aux chômeurs que j'allais m'occuper d'eux et je ne l'ai pas fait.
Oui.
J'ai dit aux cheminots que j'allais m'occuper d'eux.
Et tu ne l'as pas fait.
Oh, si.
Quoi d'autre, mon enfant? N'as-tu point de péché plus affriolant que cela?
Ben alors, avec Brigitte, quelquefois, on regarde les pornos sur Canal+.
Oh, bingo! Je le savais!
Enfin, c'est pas grave, c'est une fois par
mois. Mais silence, boule de vis! C'est à moi de juger si c'est grave ou pas! Pour la peine et ta rédemption, tu passes immédiatement dans la pièce à côté.
Mais pourquoi il y a quoi à côté?
Christine Boutin!
Oh non, pas ça!
Si!
Oh, il y a quelqu'un? C'est vous, madame Christine? Vous me faites un peu peur, madame?
Honte sur toi, mécréant!
Mais enfin...
Silence! Qui regarde du porno brûlera en enfer! Le porno, c'est la source du diable!
Mais enfin, c'est juste un petit porno, c'est pas...
Ça commence par un petit porno et ça finit en partouze chez les Balkany!
Ah ben non, enfin, pas chez les Balkany!
C'est clair, tu es possédé, mon enfant! Écoute-moi, démon, qui que tu sois, Belzébuth, Satan ou Claude Guéant, laisse notre président en paix et prends possession de moi. Oui, moi, Christine, la martyre de la République. Oh oui, prends-moi, chien, take me. Oui, oui, non, non, oui, 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 non, 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 pas comme ça, pas comme ça. Oui, comme ça. Oui, oui, ah, ça fait mal. Oh oui, c'est bon.
Bon,
ah,
ça suffit.
Ah, tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Mais je suis là, c'est pour la barrière de mon corps.
Bon, après, je vous rassure. Tout s'est très très bien, calmez-vous. Tout s'est très très bien passé, tout le monde a discuté gentiment autour d'un verre d'eau bénite et bien sûr d'un cake aux hosties. À demain.
Merci.
La bande originale avec Maggie.
Et avec Jean-François Stévenin, à partir du 18 avril, la sortie en version restaurée de ces trois films, Passe-Montagne, Double Messieurs, Mishka, Passe-Montagne avec Jacques Villeray, pardon, Double Messieurs avec Carole Bouquet, Mishka avec l'apparition angélique de Johnny Hallyday, film à qui vous avez dédié le générique de fin. Là, vous avez carrément refait changer le générique pour rajouter le nom et mettre une très belle photo de tous les deux. D'ailleurs, vous en compagnie de Johnny. Vous serez également, ça sera au Festival de Cognac, au Festival du Polar de Cognac, c'est ça, au mois d'octobre?
Oui, et puis entre-temps, ça va se balader en France, quoi. Ça va se balader dans les salles d'arrêt d'essai. À Paris, c'est le 18 avril, c'est le au Reflet Médicis, rue Champollion.
Ah, c'est trois films. Que le 18 avril?
Oui, non, non, les jours qui viennent, oui, d'accord, au moins,
dans une salle.
On espère. Mm-hmm.
D'accord. Et, oui, cinéma d'art et d'essai. Ouais. Et puis, alors, parlons de ce film que vous avez tourné, Champ de fleurs. Enfin, c'est le titre que j'ai pour l'instant. Est-ce que ce titre va changer ou pas? Le nouveau film de Jeanne Herry, qui nous avait bluffé. Le film qu'elle avait fait avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte.
Laurent Lafitte. Mon idole. C'est mon idole.
Non.
Non, pas l'idole. Attends, il y a une histoire de. C'est ce présentateur, enfin, elle veut vivre avec lui. Enfin, comme c'est quoi,
on va retrouver le titre. Mais alors, vous faites quel personnage dans le film?
Expérience formidable. Je fais le père de du personnage principal, comme ça, qu'elle fait venir quand ça va pas trop.
Qui?
C'est très. Il y a beaucoup de non-dits, tout ça. C'est la présence. Elle compte beaucoup sur la présence de l'acteur pour que. D'y voir.
Non, c'est elle l'adore.
C'est ça, le... Et c'était une expérience. Moi, j'ai fait que deux jours, donc j'ai pas pu. Mais
elle dirige bien.
Elle dirige magnifiquement, avec beaucoup de générosité. Elle est très à l'écoute. Elle propose plein de choses. On fait pas deux prises pareilles. Elle fait des raffineries, des raffinages de caméras formidables. Et en même temps, elle met tout le monde à l'aise. Tout le monde. Moi, je les ai vus. Ils étaient en fin de tournage après déjà 9 semaines. Tout le monde était là, elle n'avait qu'une envie le soir, c'est d'arriver le lendemain matin, ce qui est très rare.
Qui est au casting du film?
Je sais pas.
Bah, vous avez bien joué avec des comédiens, non?
Oui, non, mais très peu. Très peu. Moi, je fais que 2 jours. J'ai une petite parenthèse, moi, dans le film.
Mais comment on explique que vous tourniez pas plus que ça? Est-ce que vous faites peur au réalisateur? Comment on explique ça? Parce que vous êtes un esprit tellement libre, peut-être, que on se dit, voilà, on va pas réussir à l'orienter. Jean-François Stévenin, il a ça. Et puis,
Non, parce qu'en plus, il paraît que je suis très sympa sur les plateaux.
Il paraît.
Non, c'est vrai. Les gars me disent ça souvent, les gars. Quand on tournait séries comme Le Camarguais, par exemple, des gars qui viennent tourner 2 jours. Mm-hmm. Ils sont morts de trac, forcément, parce qu'ils ont que 2 jours. Maintenant, je sais ce que c'est. Ça m'arrive souvent. Quand on tourne 2 jours, on essaye de faire plaisir. Tandis que quand on tourne tous les jours, on se dit, bon, là, aujourd'hui, c'est moyen. Demain, je vais mettre le turbo, va aller mieux.
On a plus de temps pour se
refaire. Les gars, plutôt que d'être là au maquillage le matin, je dis, la veille, je l'ai chopé. Je disais, viens, on va répéter, là. C'est comme ça, on arrive au maquillage le lendemain. On a déjà joué le texte sans qu'il y ait de metteur en scène, sans rien. On l'a fait entre nous. Le gars, ça a un plus total. Après, il dit, oh, Stévenin, formidable, il m'a vachement aidé. Mais on s'est aidé mutuellement, c'est évident. Donc, moi, je suis plutôt un gars hyper sympa sur un tournage.
Les séries, justement, on vous fait des propositions de personnages récurrents, comme on dit à la télévision?
Il y aurait eu une très bonne série, mais ça n'a pas marché, on n'en a fait qu'un. C'était Victor, maître de chantier. Où là, ça aurait été formidable. Et puis, c'est tombé à l'eau. On a fait aussi avec Béranger. Béranger, tu vas le dire, deux hommes dans la ville où on avait une coccinelle jaune. On faisait 2 flics, le bon, le méchant, qui permutent. Hop, ça a été arrêté, on ne sait pas pourquoi.
À côté de vous, alors le film sortira le 14 novembre, le film de Jeanne Herry.
Ah bon?
Voilà, et dans le film, vous vous êtes pas rendu compte, mais il y a également Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch et Élodie Bouchèze, entre autres. Hein.
Voilà,
et
vous... moi je tournais avec Élodie.
Ouais. Ah bah voilà, mais vous vouliez pas me le dire, très bien. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé bien sûr pour Jean-François Stévenin. Alors j'ai eu Michel Fagado au téléphone à la pause, après votre belle déclaration d'amour, et il meurt d'envie de vous proposer une nouvelle pièce. Pas de souci, Michel. Je pense qu'il est chaud, le Jean-François. Désolé pour les téléfilms et les films caca-boudin dénoncés par Jean-François Stévenin. Et oui, les amis, c'est une catégorie que on connaît bien ici. Désolé pour tous nos auditeurs de Lons-le-Saunier qui ont découvert que non seulement leur ville sordide avait été coupée au montage par Jean-François Stévenin, et qu'en plus, selon notre prof de géographie, Nagui, on la confondait souvent avec Longwy, ville sinistrée de Lorraine, qui toujours, selon Nagui, notre spécialiste d'histoire, a longtemps collaboré avec l'Allemagne.
Merci Jean-François, c'était un plaisir de vous accueillir en tout cas.
Merci à vous.
À très bientôt. Demain, nous parlerons série justement télé avec Barbara Schulz et Samir Ghezmi en live Benabar. Bonne journée avec Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Philippe.
Allô. Et le Jura est un des plus beaux départements de France, tiens à le dire.
D'accord. Bah, et donc vous qui les connaissez tous.
Mais en plus ça, nous sommes voisins puisque maintenant nous sommes réunis Bourgogne-Franche-Comté.
Ah oui, c'est vrai.
Hey,
ah,
oui. C'est pas rien ça. Donc tout le monde s'en moque, d'accord.
Mais non, pas du tout.
Peut-être à demain.
On était en retard, c'est pour ça que je voulais insister.
T'as un point commun avec Jean-François Stévenin, c'est vos imitations aussi. Vous êtes bons tous les deux.
Ouais, mais ça, je vais pas le faire aujourd'hui.
Mmh. Salut les amis. Un moment, on va juste préciser que la vanne, le désolé de Daniel Morin, Flagado nous a quittés il y a plusieurs années. Hein, mais je précise pour que les auditeurs ne prennent pas mal.
C'est son esprit qui a voulu parler.
C'était qu'une blague.
Bon, merci les amis. C'est l'heure de la bourse et du journal. J'y vais.